BFM Radio, midi 15h, le 12-15 d'Edwige Chevrillon.
Retour dans le 12-15 avec mon invité, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, pour son livre Le triomphe de la cupidité, un livre publié au Lien qui libère. Joseph Stiglitz, vous disiez qu'il y avait de la colère contre la politique fédérale, vous disiez qu'il fallait absolument que le secteur privé investisse, mais nous sommes dans une situation où il y a encore de la spéculation contre l'euro, il y a toujours les hedge funds. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut tuer les hedge funds?
Well, the question is not killing, because financial markets play an important role.
La question, ce n'est pas de les tuer, car les marchés financiers jouent un rôle important dans notre économie.
Divert their energies.
L'idée, c'est plutôt d'essayer de détourner leur énergie au profit d'objectifs plus créatifs. Actuellement, on a un système fiscal qui encourage la spéculation plutôt que le prêt.
Excessive leverage.
Et ça entraîne un endettement excessif.
Oui, mais les hedge funds ne sont pas faits pour prêter.
Some of the hedge funds are actually engaged in getting money to private equity.
Certains hedge funds s'occupent d'amener de l'argent aux sociétés de private equity. Mais comme vous l'avez dit, la plupart des hedge funds sont dans la spéculation. Mais on a un système fiscal qui leur donne un traitement préférentiel. Ça n'a pas de sens. Les gens qui travaillent pour gagner leur vie sont taxés plus lourdement que les hedge funds.
Vous dites dans votre livre qu'il y a des bonnes et des mauvaises idées. Très bien. Est-ce que, par exemple, le plan de Barack Obama sur les banques est un bon plan? Est-ce que c'est une bonne idée?
The proposals that Obama has come forward recently.
Les propositions qui ont été faites récemment par Obama sont un grand pas dans la bonne direction. J'étais très inquiet par l'insuffisance de ses premières propositions l'été dernier.
There still is lots of other things to be done.
Il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. C'est seulement un début.
France and UK are much further along in thinking.
Par exemple, la France et le Royaume-Uni sont beaucoup plus en avance dans leur façon de limiter les bonus et de ne pas se laisser aller à des plans de relance excessifs. Mais quelque chose doit être fait aussi bien concernant les grosses banques que les petites banques.
We have problems with Bear Stearns, the investment banks.
On a des problèmes avec Bear Stearns, les banques d'investissement, Goldman Sachs. Les restrictions, les régulations doivent être beaucoup plus vastes que celles proposées par Paul Volcker.
Faut-il revenir au Glass-Steagall?
Yes, something along those lines. The world is different.
Oui, à quelque chose de ce genre. Le monde de 2010 est différent de celui de 1930. Mais nous avons clairement besoin d'une adaptation moderne de cet acte, et c'est l'une des choses vers lesquelles Volcker tendait. Mais lorsque le Glass-Steagall Act a été voté, on n'avait pas ces CDS, tous ces produits financiers complexes et opaques. Il faut se rappeler que quand on a sorti d'affaires AIG, tombé à cause de ces dérivatifs, ça a coûté aux contribuables américains 180 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et on ne peut pas laisser ça se reproduire. C'est quelque chose qui n'a pas été discuté dans le plan Volcker, ni dans le Glass-Steagall. C'est quelque chose que l'on doit gérer aujourd'hui.
Ouais. Est-il possible d'avoir un Glass-Steagall Act juste aux États-Unis et non pas en Europe ou en Asie?
C'est l'une des choses dont j'ai parlé dans le Financial Times hier. Oui, ce serait mieux si on pouvait avoir une coordination financière, mais c'est très difficile. Je crois que beaucoup dans le secteur financier continuent à parler d'une coordination mondiale, tout en sachant que ça n'arrivera pas, qu'il y aura une paralysie. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Pas de régulation. Moi, ce que je soutiens, c'est que la première responsabilité de chaque pays est envers ses citoyens, de s'assurer que son économie et ses citoyens sont protégés contre les produits risqués. Et chaque pays doit, aussi rapidement que possible, mettre au point un plan de régulation qui pourra, selon lui, protéger le pays et ses citoyens. Et par la suite, nous pourrons réconcilier ces différents systèmes. Mais nous ne pouvons pas attendre. On a déjà trop attendu. Et si on continue d'attendre, nous aurons un autre désastre avant d'avoir trouvé une solution.
Vous avez été chef économiste à la Banque mondiale. Vous avez critiqué la Banque mondiale et le FMI. Est-ce que vous trouvez dommage quand même, enfin nuisible peut-être, que l'Union européenne ne veuille pas faire appel au FMI pour aider la Grèce?
Je
pense que le FMI a beaucoup changé depuis le temps où je le critiquais il y a 10 ans. Strauss-Kahn a fait un excellent travail pour changer cette institution.
I think there are strong arguments for Europe to deal with the problem.
Je crois que l'Europe a de bons arguments pour gérer le problème seule.
And it needs to develop the institutional
Elle en a les ressources et elle a besoin de développer son cadre institutionnel pour gérer ça.
Perfectly reasonable.
Mais si elle n'y arrive pas, c'est parfaitement sensé pour l'Europe de se tourner vers le FMI. Le Royaume-Uni s'est tourné vers le FMI il y a plusieurs dizaines d'années. L'Islande s'est tournée vers le FMI. C'est pas un désastre. Ça vaut mieux que les souffrances qui ont été infligées, telles que les attaques inutiles envers la Grèce, l'Espagne, le Portugal et d'autres pays.
Un banquier à Davos me disait, on avait avec les subprimes un problème à 1500 milliards de dollars, maintenant on a un problème à plus de 10 000 milliards de dollars avec les déficits publics.
Les banques ont pris de très mauvaises décisions concernant la capacité des gens pauvres à rembourser leurs prêts. Elles ont autorisé des prêts à ces gens-là au-delà de leur capacité à payer. Les gouvernements sont arrivés à la rescousse et ça a creusé le déficit. Mais ces deux situations sont complètement différentes. Personne ne pense que les États-Unis ne peuvent pas payer leurs dettes. L'idée selon laquelle les marchés augmentent maintenant leurs crédits et parient sur le fait que les États-Unis ne pourront pas payer illustre l'absurdité du marché financier. S'il y a une chose à retenir de cette crise, c'est que les marchés sont irrationnels et ils font souvent des choses stupides. C'est une image. Car le gouvernement américain peut toujours s'en sortir en imprimant plus de billets. On pourrait s'inquiéter de l'inflation, des taux de change, d'autres choses encore. Mais s'inquiéter de la capacité des États-Unis à rembourser sa dette est vraiment absurde, je dois dire. Et je crois qu'il en va de même pour l'Europe dans son ensemble.
Joseph Stiglitz, vous dites dans votre livre, l'Amérique doit changer vite. L'Europe, voire la France, est-elle un meilleur modèle à vos yeux? Et surtout, quel est le nouvel ordre mondial?
Sur beaucoup de points, le modèle social européen s'en est mieux sorti face à la crise actuelle. Et cela de deux façons. Il y a les stabilisateurs économiques, des moyens par lesquels l'argent est évacué quand l'économie faiblit, et qui aident à la stabiliser, à éviter les situations extrêmes qui peuvent arriver dans d'autres pays. Deuxièmement, ces stabilisateurs économiques peuvent aussi apporter une protection sociale. Le désastre qu'est le marché du travail américain est maintenant une source d'inquiétude. Je vais vous donner quelques chiffres. Officiellement, le taux de chômage est juste au-dessous de 10% aujourd'hui. Mais en réalité, c'est presque un Américain sur cinq qui cherche un emploi à temps plein et qui ne peut pas en avoir un. Le taux de chômage des jeunes afro-américains est proche de 50%. Le nombre de chômeurs de longue durée a aussi augmenté. Des chiffres qu'on avait l'habitude de trouver en Europe, mais qui apparaissent pour la première fois en Amérique. Plus de 40% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Donc l'absence de couverture sociale aux États-Unis signifie que la détresse sociale causée par la crise est très élevée. C'est tout à fait inacceptable.
There are other elements of the stress in the United States.
Il y a d'autres éléments de stress aux États-Unis. De 2,5 millions à 3,5 millions d'Américains vont sûrement perdre leur maison cette année. C'est plus qu'en 2009 où ils étaient déjà 2 millions.
Si je vous comprends bien, Joseph Stiglitz, en fait, ce nouvel ordre mondial serait plutôt proche du modèle français.
Je crois que différents
pays vont avoir différents modèles. Mais l'une des caractéristiques du modèle français, c'est un meilleur équilibre entre le marché et l'État. On a besoin de protection sociale, d'un gouvernement qui met en avant une nouvelle industrie, l'innovation. Et le système du laisser-faire, la dérégulation, est un système qui est plein de problèmes.
Sortie de crise, c'est pour quand ?
The Congressional Budget Office does not believe
le bureau du budget du Congrès ne pense pas que le taux de chômage reviendra à la normale avant 2015. Pour moi, les chiffres ne redescendront que très doucement.
Before 2013, 14,
en 2013, 2014, 2015,
at a very slow recovery.
Nous nous engageons vers un rétablissement très, très lent. Le consensus veut qu'en 2010 ou 2011, la croissance sera trop faible pour permettre une percée au niveau des emplois. Le taux de chômage n'augmentera peut-être pas, mais il ne baissera pas non plus de façon significative.
Merci beaucoup, hein, Joseph Stiglitz, d'être passé par les studios de BFM Radio. Je rappelle que vous êtes prix Nobel d'économie et vous publiez donc Le triomphe de la cupidité. C'est chez Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup, Joseph
Thank
Stiglitz.
Thank you. Merci.